Fêtes et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.
Bonjour à toutes et à tous. Notre monde, il est soif d'avoir la paix. Et c'est pas simple. On essaie des solutions, il y a des solutions, il y a ceux qui pensent qu'ils ont des solutions. Alors, c'est des sujets qui reviennent de temps en temps, mais puisqu'on est à la veille de la fête de Don de la Torah, que ça va se passer dans moins que deux semaines, là on va un petit peu toucher la vision de la Torah. Il y a beaucoup à développer, de temps en temps on parle de ça, mais c'est le moment plus que jamais, et surtout aussi que autour de nous, on cherche des solutions, on ne trouve pas de solutions. Alors bien sûr que comme on a l'habitude de ne pas parler d'un sujet particulier, de voir d'une façon plus générale, alors on va développer cette notion un peu de paix et de conflit. Est-ce que ça va ensemble? Bien sûr que ça ne va pas ensemble, mais est-ce que les différences, on peut vivre avec les différences, ou bien pour vivre ensemble, il faut effacer les différences. Ça, c'est un sujet très intéressant dans la Torah, et donc de là, on peut apprendre ailleurs aussi. C'est vrai que c'est un long sujet qu'on ne peut pas... On touche chaque fois un sujet d'une façon très, très... superficiel, mais quand même c'est déjà quelque chose. Et celui qui veut, il peut chercher ces notions. Là on parle de ça, dans la Torah il y a plusieurs notions. Ça se développait beaucoup. Alors on sait que notre vie est remplie de paradoxes. Le paradoxe fait de notre vie. Et dans de plusieurs domaines. Et on vit avec le paradoxe, d'ailleurs on est dans une période, ce que s'appelle le conte de Homer. Dans le conte de Homer, il y a le conte, donc il y a cette semaine qu'on compte. Et chaque semaine est liée avec une idée spirituelle qui s'appelle Sphira. Alors la première semaine, c'est lié avec une Sphira qui est plutôt... Si on peut dire comme ça, c'est un sphéra de droite. Un sphéra, ça veut dire un mouvement de droite. Droite, ici, ça veut dire... En tout cas, droite et gauche, c'est relatif. Ça dépend par rapport à quoi. Dans le judaïsme, on développe plutôt les notions de droite, ça veut dire donner. Les notions de gauche, ça veut dire se retenir, à ne pas donner, à limiter. Et ensuite, on est obligé de passer par une troisième chose qui s'appelle Tiferet, qui est quelque part l'harmonie. L'harmonie, c'est pas là et c'est pas l'autre, c'est l'harmonie. Et à ce moment-là, c'est quelque chose qui est parfait. En tout cas, ça nous approche vers la perfection. Il y a un exemple qu'on dit, il y a certains qui sont un peu... ils ont une faiblesse par rapport aux couleurs. Et lorsqu'il y a une couleur, ça peut être magnifique. Et pourtant, quand il y a des différentes couleurs qui s'accordent ensemble, alors à ce moment-là, ça s'appelle Tiferet. C'est quelque chose, à mes yeux, souvent, c'est magnifique. Quand il y a deux couleurs qui se marient bien, même si chaque couleur à part est bien, mais la notion de pouvoir marier deux couleurs qui sont liées, et parfois c'est un contraste qu'il faut avoir, et à ce moment-là on les met ensemble, ça s'appelle Tiferet, donc quelque part harmonie, et c'est quelque chose de très beau. Là aussi dans le judaïsme, on a beaucoup de paradoxes. On a des paradoxes de partout. Et pourtant, il est marqué que la Torah a été donnée pour amener la paix dans le monde. Alors, il y a certains qui disent que c'est la plus grande blague qui existe, parce que dire que la Torah, elle est là pour faire la paix, bien, Au contraire, dans la Torah, on trouve des conflits, des différences. Des différentes manières. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Les différences, alors on n'est pas obligé de rentrer, de dire qu'il y a une différence, puisque la Torah nous dit fais ça, ne fais pas ça. Donc, alors déjà, quand je ne fais pas certaines choses, donc je éloigne certaines choses de moi, donc c'est déjà plus en harmonie. Je me suis éloigné de quelque chose. Et ensuite, à l'intérieur de nous, celui qui étudie le Talmud, il voit qu'il y a toujours, je ne vais pas l'appeler conflit, mais il y a toujours des désaccords. Le judaïsme est basé sur le désaccord, on n'est pas d'accord. C'est connu, il y a cette phrase qui dit « deux juifs, trois opinions ». Ça veut dire qu'on n'est pas d'accord, parce qu'on voit les choses différemment. Mais il y a aussi ce sens d'être opposé. Donc ça, c'est une qualité une bonne qualité ou une mauvaise qualité, ça dépend de quoi on parle. Mais en tout cas, on voit que le judaïsme est rempli de conflits. En fait, c'est peut-être le mot encore une fois, conflit. C'est pas vrai, mais en tout cas plutôt paradoxe. On a beaucoup de paradoxes. Et pourtant, on dit que la Torah, c'est la source de la paix. Donc alors, ça aussi c'est paradoxe. La Torah est remplie de paradoxes. La vie juive est remplie de paradoxes. La vie générale est remplie de paradoxes. Et pourtant, c'est ça le schéma pour la paix, comment on peut le comprendre. Donc comme on a dit tout à l'heure, on est dans cette période que qu'on se prépare au don de la Torah. Et dans le don de la Torah, comme la Torah nous raconte, il y avait une préparation. Il y avait la sortie de l'Égypte, mais pas tout de suite après la sortie de l'Égypte, on a reçu la Torah. Il y avait toute une préparation. C'est vrai que dans la Torah, même on ne donne pas de date. En tout cas pour certaines choses, oui, pour certaines choses, non. Mais si on lit toute cette période entre la sortie de l'Égypte et l'arrivée devant le Mont Sinaï, que ce n'était pas long, c'était 50 jours, et pourtant il y avait beaucoup de choses. Et ces choses, ce n'est pas seulement des événements naturels qui se sont passés parce qu'on a passé par tel et tel endroit, mais c'était des passages nécessaires. Parmi eux, il y avait des conflits, et ces conflits étaient nécessaires. Donc, alors, parmi les choses que la Torah nous raconte, encore puisqu'on est la veille dedans de la Torah, on passe par cette trace, ça veut dire que entre la sortie de l'Égypte et le don de la Torah, chaque année, on passe par les mêmes quelque part étapes, les mêmes étapes que il y avait à l'époque. Alors là aussi, on passe par cette idée, par ces idées paradoxes, et ensuite la paix. Donc la Torah nous raconte que le troisième mois depuis la sortie de l'Égypte, ces jours, ils sont venus devant le Mont Sinaï. Et à ce moment-là, la Torah nous raconte qu'ils ont quitté l'endroit qui s'appelle Refidim, et il est venu. Donc là, d'un coup, on change de ton. On change. Au début, on dit ils sont le peuple, ça veut dire les gens. Les gens du peuple d'Israël, ils ont quitté l'endroit qui s'appelle Refidim. Ensuite, la Torah, dans la même phrase, elle dit « et il est ». Donc, le peuple est venu devant le mont Sinaï. Il a campé devant le mont Sinaï. Alors, la question qui se pose, comment ça se fait que dans la même phrase, on parle, on peut dire « eux », on peut dire « ils », on peut dire « eux » quand on parle d'un peuple qui est rempli de différences, de multitudes de personnes. Donc on peut dire eux, on peut dire aussi ils, quand on parle d'un peuple en tant qu'unité. Mais ici, dans la même phrase, on dit ils ont quitté Refidim et il est arrivé devant le Mont Sinaï. Comment cette phrase fonctionne? Ça ne va pas. Alors la Torah nous dit oui, c'est pour... En fait, le commentaire de la Torah nous explique que le même peuple a changé. Au début, il était « il » en pluriel, et ensuite, il est devenu « il ». Il est, il a campé devant le mont Sinaï. Et la Torah nous dit, en fait, le Talmud nous dit qu'il y avait beaucoup de disputes jusqu'à là. Jusqu'à le moment où ils ont campé devant le mont Sinaï, il y avait beaucoup de différences, de disputes. Mais lorsqu'ils sont arrivés devant le mont Sinaï, d'un coup, les disputes étaient effacées. Et à ce moment, Dieu il a dit, puisque maintenant ils ont rejeté les disputes et ils ont aimé la paix, c'est le moment de leur donner la Torah. Alors, d'une part, on peut voir que c'est quelque chose comme quelqu'un qui lui dit, tu vas te comporter bien, on va te donner un sucette. Est-ce qu'il y a une sucette? Est-ce qu'il y a un rapport entre la sucette et le comportement? Pas forcément, mais c'est naturel. Quelqu'un qui se comporte bien, on lui donne quelque chose. Ça peut être une sucette, ça peut être un gâteau, un chocolat, mais il n'y a pas de rapport forcément entre la cause et la raison. La seule chose, c'est que puisqu'il se comportait bien, il va recevoir un cadeau, il va recevoir quelque chose. Et est-ce qu'il y a un rapport entre le fait de recevoir la Torah et le fait de se comporter bien, d'être, de rejeter le conflit et recevoir la Torah? Alors si, parce que toute l'idée de la Torah, c'est l'idée de l'harmonie. Alors encore une fois, la grande question qu'on a posée tout à l'heure, comment ça, l'harmonie, rentrer dans une étude talmudique, vous allez voir qu'on n'est jamais d'accord. En tout cas, jamais d'accord, c'est un petit peu exagéré, mais ça veut dire qu'on est toujours en désaccord. Et non seulement ça, vous allez rentrer dans cet univers talmudique, vous allez voir que chaque sujet est développé. Et donc, puisqu'on développe des idées, là il dit comme ça, l'autre il dit comme ça. Et ensuite, lorsque on essaye de comprendre, on va prendre les noms par exemple, il y a Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Rabbi Yehuda il dit comme ça, Rabbi Meir il dit comme ça dans la Mishnah. Ensuite, le Talmud, parfois, il essaye d'expliquer quelle est l'idée de Rabbi Meir et quelle est l'idée de Rabbi Yehuda. Donc là aussi, on trouve des différentes manières d'expliquer Rabbi Yehuda et de différentes manières d'expliquer Rabbi Meir. Ensuite, ça ne s'arrête pas là. On arrive à quelques générations après, les générations de... En fait, il y avait plusieurs générations, mais ce qu'on a sur notre page talmudique, on a Rashi, que lui, il explique d'une manière ses discussions. Et vous allez à côté, parce que sur la page talmudique, vous avez d'un côté Rashi, de l'autre côté, vous avez les Tosafit, les Tosafot, que... Parfois, c'est les petits-enfants de Rashi, mais en vérité, c'était toute une génération de sages, d'ailleurs, qui étaient de la France. Et là, vous voyez une autre vision, parfois, de Rashi. Ils ne sont pas d'accord, donc c'est une autre vision. Et comme ça, vous allez d'une génération à l'autre, on a des commentaires, sur des commentaires, et ça se multiplie, la vision. Et comme cette image qu'on dit qu'on a l'habitude d'étaler ou bien de séparer un cheveu en quatre. Donc ça c'est souvent dans l'étude talmudique. Donc on voit les différences, on voit les paradoxes. Les paradoxes sont développés. Et plus que ça, on nous demande, il y a une mitzvah, il y a un devoir dans la Torah, c'est d'étudier. Étudier, ça veut dire pas étudier d'une façon générale. Ça, c'est pas considéré comme une vraie étude. Une vraie étude, c'est quand je rentre dans la profondeur de la chose. J'étudie les choses d'une façon profonde. Et là, lorsque je rentre dans ce monde profond, je trouve la profondeur de la Torah. Et à ce moment-là, les différences sont là. Les différences entre moi et quelqu'un d'autre, moi je comprends comme ça. Et l'autre il comprend comme ça, et là il n'y a pas de concession. Si je pense d'une manière, il faut développer à fond ma pensée. Et si l'autre, il pense d'une autre manière, il doit développer à fond sa pensée à lui. C'est vrai que lorsqu'il s'agit d'un jugement, alors à ce moment-là, il faut finalement trouver l'harmonie, mais dans la pensée, on développe, on se développe. on développe nos différences. Donc, alors, dans la Torah, dans l'univers de la Torah, vous voyez toujours les différences, et parfois les différences entre moi et moi, parce que puisqu'on étudie beaucoup, en tout cas, on est censé étudier beaucoup et profondément, alors quand on est dans la profondeur, on trouve beaucoup de différences. Et c'est possible qu'hier, j'ai compris d'une manière, et le lendemain, je comprends d'une autre manière, et encore le lendemain, je vais comprendre d'une autre manière. Donc, alors, plus qu'on rentre dans ce royaume de la Torah, on trouve les différences. Donc, comment on peut dire que la Torah mène la paix, puisque c'est apparemment le contraire, c'est la Torah qui mène les différences. Et c'est une question très, très compliquée, parce que qu'on peut encore développer encore et encore. Mais en tout cas, ça, c'est la grande question. Alors, on a parlé tout à l'heure du fait que avant de recevoir la Torah, avant d'être devant le mont Sinaï, il y avait beaucoup de disputes. Là, on parle de disputes. Oui, il y avait des disputes. Là, ils pensent comme ça. L'autre, ils pensent comme ça, que ça a amené des disputes. Et là, d'ailleurs, les disputes n'est pas bonne. Et même quand il y a les disputes, il faut voir la dispute. Il faut voir comment ça nous mène finalement vers la paix. Mais il y avait des disputes. Devant le mont Sinaï, ces disputes sont arrêtées. D'un coup, on a senti unis devant la Torah. À ce moment-là, Dieu il a dit que c'est le moment de vous donner la Torah. Alors, la question qu'on a posée, quel rapport entre la Torah et le fait d'arrêter les disputes. Et là, le commentaire de la Torah, surtout dans la Chassidut, surtout dans la Torah du Rabbi, en fait, les commentaires du Rabbi de Lubavitch, il développe beaucoup cette notion, c'est qu'effectivement, il y a ce conflit. D'une part, la Torah développe le conflit, d'une autre part, la Torah, et malgré tout, elle développe la paix. Donc, comment on peut unir toutes les deux notions? Alors, on a des exemples qu'on utilise de temps en temps, l'idée d'harmonie. Alors, il y a des choses qu'il n'y a pas d'harmonie là-dedans. Il y a des couleurs qu'on ne peut pas imaginer, ça ne va pas ensemble. Mais il y a une notion d'harmonie. Et l'harmonie, c'est justement, c'est basé sur les différences. C'est vrai dans la musique, c'est vrai dans différentes choses, c'est vrai aussi dans la santé humaine, c'est vrai que le monde, il est basé sur les notions d'harmonie. Mais pour l'harmonie, il faut avoir beaucoup de détails et ensuite vivre en harmonie. Alors là aussi, alors il faut expliquer ça, c'est vrai, mais en tout cas, ça c'est la base de cette idée, c'est que d'une part, la Torah remplit, développe beaucoup, mais d'une autre part, la Torah nous mène à voir ce qui unit toutes les différences. Et c'est pour ça que la Torah, c'est la base de notion du paix. Et d'une autre part, c'est la base, c'est ce qui nous amène vers la paix. Parce que s'il n'y a pas de conflit, en fait, alors le mot conflit peut-être parfois, ce n'est pas le mot. S'il n'y a pas de différence, de paradoxe, il n'y a pas de paix. Tout d'abord, parce que s'il n'y a pas de différence, alors il n'y a pas avec qui faire la paix. Mais d'une autre part, s'il n'y a pas de différence, il y a des différences. De toute façon, il y a des différences. Seulement que pour réparer quelque chose, il faut bien arriver, donc quelque part séparer, révéler les différences pour réparer. Et là, on dit que si quelqu'un qui est malade, alors le début de la maladie, c'est connaître sa maladie et ensuite le réparer. Parce que si on ne connaît pas sa maladie, parfois on ne peut pas réparer. Et donc, ça pose un problème. Là aussi, au niveau de, on est différent. Chacun est différent. Dieu il a créé le monde, les humains, qu'on est très différents l'un à l'autre. Et donc, on peut ignorer la différence. À ce moment-là, on peut vivre dans une harmonie relative. Mais, d'une autre part, vivre en vraie harmonie, c'est lorsqu'on développe les différences et on arrive à harmoniser les différences. Ça, c'est la vraie harmonie. Alors, c'est ça le travail que fait dans la Torah. Alors, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Parfois, il y a des gens qui arrivent en mi-chemin. Alors, à ce moment-là, ils restent avec les différences et ils n'arrivent pas au bout des différences pour cette notion de la paix. Et que la paix, c'est l'idée de l'harmonie dans les différences. Ça veut dire que parfois, on dit que toi, tu restes ce que tu es. Et moi, je reste ce que je suis, et ensuite, on est ensemble. D'ailleurs, la base du mariage, c'est aussi la même idée, on est différent. Alors, si on est différent quand même, ce n'est pas la vraie différence, parce que finalement, il y a un couple qui peut se marier, il y a un couple qui ne peut pas se marier, parce qu'on peut dire qu'ils ne sont pas... ils sont pas assez harmonieux ensemble, ou bien ils sont pas assez différents. En tout cas, c'est vrai que dans la vie, il y a des couples, mais ça peut être quand même un exemple que les différences, grâce aux différences, on peut créer un couple. Alors, ça peut être un couple de deux personnes qui sont mariées, mais ça peut être un couple, ça veut dire un groupe de gens qui font ensemble des choses, c'est ce groupe, pas un autre groupe, parce qu'avec d'autres, on ne peut pas vraiment être bien. Mais d'une façon générale, le monde, il est fait des groupes, de différents groupes. Et finalement, le but, c'est que le monde se réunit malgré les différences et parfois grâce à ces différences. Et c'est pour ça qu'on explique que la Torah était donnée en troisième mois. C'est pas, il n'y a pas de hasard. Tout... Les détails sont importants. Ça veut dire le fait même que chaque détail, chaque étape, ce n'est pas superficiel. À nos yeux, c'est superficiel, mais c'est très, très important. Donc, alors, la Torah nous raconte que les Bnei Israël sont sortis de l'Égypte au premier mois. Et ensuite, il y avait pas mal de choses qui se passaient au deuxième mois. Et ensuite, ils sont venus devant le Mont Sinaï au troisième mois. Alors, le fait qu'on parle de troisième mois, ce n'est pas par hasard comme on va voir tout de suite. Alors, quand on dit que les peuples juifs, ils sont sortis de l'Égypte en premier mois, ça représente un petit peu l'idée de la sortie de l'Égypte. C'est une notion d'union, mais l'union pas dans les différences. On va dans le même sens, on a un seul but. Alors que parfois, le but... Il cache les différences, comme on voit souvent, des ennemis qui deviennent amis parce qu'on a un ennemi en commun. Donc alors ça veut dire que dans ce sujet, on est unis, mais on n'est pas unis parce qu'on est unis, parce que dans ce sujet qu'on est en train de tourner autour de cette idée, on est unis parce qu'on n'a pas de différence, on a la même vision. On a le même ennemi, si on peut dire comme ça. Donc, alors, c'est une notion d'union, mais ce n'est pas la vraie union, parce qu'une fois que l'ennemi, il n'y aura plus d'ennemis, donc on va à nouveau trouver la différence, parce que jusqu'à là, on était concentré à s'occuper de ce qui nous unit, mais une fois que les choses sont plus là, donc on va retrouver nos différences. Donc, ça, c'est. Mais quand même, pendant cette période, on est unis pas parce qu'il y avait d'harmonie, une union harmonieuse, mais c'est plutôt parce qu'on a un point en commun qui ne nous différencie pas par rapport à ce sujet. Et ensuite, ça c'est ce que représente plutôt le premier mois, qui on est tous unis pas par les différences, mais ça veut dire qu'on met les différences de côté parce qu'on n'est pas... on a une idée en commun. Ensuite, le deuxième mois, en vérité, on peut voir cette idée un petit peu avant, mais c'est plutôt lié avec le deuxième mois, parce que le deuxième mois, c'est là où les différences, on est sorti de l'Égypte. Là, d'un coup, on trouve les différences. On n'est pas d'accord, on ne voit pas les choses pareilles. Et là, on trouve des différences, et ces différences gênent. Donc, mais la Torah nous demande qu'il faut travailler dans les différences. Et ensuite, après qu'on a travaillé dans les différences, ça veut dire bien séparer entre les différentes visions, ensuite amener l'harmonie dans les différences, c'est là l'idée plutôt des troisième mois. Donc le deuxième mois est lié avec les différences, parce qu'il y a déjà deux. quand on est deux, donc on est différent. Le troisième, comme on trouve souvent dans la Torah, le troisième, il unit entre l'un et l'autre. C'est le point en commun après les différences. Et donc ça, c'est toute l'idée de la Torah. C'est vrai que dans la Torah, si on pénètre dans la Torah, on voit beaucoup de différences, beaucoup de... qui peut amener en conflit si on arrête au milieu du schéma. Mais finalement, comme il est marqué, « Vet vahev besoufa », ça veut dire que finalement, les différences, si on suit le bon schéma, les différences mènent vers l'harmonie. Et c'est pour ça que la Torah a été donnée en troisième mois, parce que l'idée de troisième, justement, c'est ça l'idée, qu'il y a beaucoup de différences dans notre vie. On est très, très, très différents et pourtant, et il faut avoir cette harmonie, et parce que, pas parce qu'on ignore les différences, ça c'est une manière qu'on ignore les différences, c'est une manière de faire la paix, mais à ce moment-là, ça ne répare pas toujours les problèmes parce qu'on reste différent, ça flotte à un moment donné. Mais l'idée, c'est plutôt de voir comment, malgré les différences, on est unis, ou bien plutôt grâce aux différences qu'on est unis. Si on peut donner un exemple d'un enfant, on est dans l'éducation c'est assez compliqué. On cherche des solutions par-ci et par-là, il y a toujours un problème qui flotte. Alors, on peut imaginer un enfant qu'on lui dit, voilà, un enfant, il doit obéir, ça c'était le vieux méthode, qui n'est pas faux, qu'on a un enfant, il doit obéir à tout ce qu'on lui dit. Alors, si on va dire à un enfant, voilà, si on va dire à un enfant, écoute, tu dois nous écouter, tu dois obéir, c'est une bonne méthode parce qu'un enfant il doit obéir, mais d'une autre part, il va encaisser, il va garder en lui tout ce qu'il n'est pas d'accord, et à un moment donné, il va parfois rejeter parce qu'on l'a obligé de faire certaines choses, et il n'est pas d'accord, donc à un moment donné, il peut rejeter tout. Si on va apprendre un autre schéma, on va éduquer un enfant à faire ce qu'il veut, comme parfois c'était une autre méthode. Aujourd'hui, je veux que l'enfant il comprenne tout seul ce qui est bon et ce qui est mauvais. Là aussi, ça ne marche pas, parce que l'enfant, quand on fait confiance à l'enfant, comme il est marqué dans la Bible, cette image qu'un enfant, il est né, chaque personne est née sauvage. Donc, un enfant sans éducation, c'est un enfant a un problème. Donc, ça aussi, ce n'est pas une solution. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir l'harmonie. Alors, c'est vrai que pour éduquer, il faut savoir le faire, mais l'idée, c'est comme ça, que d'une part, on éduque un enfant à qu'il doit obéir, mais d'une autre part, en même temps, on lui donne... on développe ses capacités. Alors, ce n'est pas facile, mais il faut faire les deux en même temps. D'une part, l'enfant, il doit avoir cette obéissance, c'est obligatoire, parce que sinon, normalement, il va faire ce qu'il a envie de faire, et ça va être compliqué pour tout le monde, ça va être compliqué pour lui. D'une autre part, si on écrase l'enfant, on ne lui laisse pas se développer, alors à ce moment-là, ça peut être le contraire. Il va garder en lui ce qui ne va pas, et à un moment donné, ça va sortir dehors. Donc, il faut trouver la manière la plus juste, que d'une part, il faut lui apprendre à obéir, d'une autre part, il faut montrer comment ses désirs vont ensemble avec cette notion, et s'il va obéir, pourquoi c'est à pour son bien et les différentes manières qu'il y a à voir là-dedans. Alors, pour terminer justement avec cette même vision, même si on n'a pas développé beaucoup, c'est juste pour toucher le sujet, parce que c'est des longs sujets sur des longues pages, mais il y a quelque chose d'intéressant dans le Pirkei Avot. On est en train de faire l'étude de Pirkei Avot, donc le maxime des pères, pendant cette période de 6 semaines entre Pessah et Shavuot, que ça nous apprend ce passage, je ne sais pas si on peut l'appeler passage talmudique, Mishnah. Donc ça nous apprend la vie avant de recevoir la Torah, comment on regarde sur la vie, etc. Alors là, il y a une vision comme ça, il est marqué que le monde a été créé en 10 paroles. Comme ça, il est marqué, là aussi, il faut expliquer. Mais pourquoi le monde a été créé en 10 paroles? Il aurait pu être créé à une seule parole, puisque Dieu il est le Tout-Puissant. Alors là aussi, c'est un sujet qu'il faut expliquer. Et la Chassidut développe comme ça, qu'en vérité, le monde a eu en lui les deux notions. Les 10 paroles, c'est vrai que c'est 10 paroles, mais c'est l'idée des différences. Dieu il a créé en même temps les différences et l'union. Dans chaque chose, il y a la possibilité de différence, il y a la possibilité d'union. Donc, alors d'une part, il faut développer les différences, mais en même temps, il y a la possibilité de trouver dans les différences l'union, ce qui m'unit avec quelqu'un d'autre, avec les autres. Et c'est compliqué, mais ça, c'est la base de la Torah. L'union dans les différences, les différences dans l'union. Et c'est pour ça que... C'est ça un petit peu le sujet, un des sujets de la veille des dons de la Torah, que les différences, ce n'est pas une opposition à l'harmonie, au contraire. C'est comme si on peut donner un exemple, il y a plusieurs exemples. Il y a parfois la séparation qui amène à l'union. L'exemple qu'on peut utiliser, c'est, on sait que qu'il y a beaucoup de choses qui sont basées sur les notions de positives et de négatives, comme dans l'électricité. Si on mélange les négatives et les positives, ça va être une catastrophe. Mais si par contre on sait mélanger, et on sait séparer entre les différences, ça va être bénéfique, parce que ça va créer l'harmonie. Ça veut dire que les différences créent l'harmonie. Ou bien il y a beaucoup d'exemples dans notre vie, comment les différences créent l'harmonie. Donc, pour dire quand même un mot sur la paracha, cette paracha qu'on va lire cette semaine, elle s'appelle Behar, une montagne. Ça veut dire que les lois qui étaient dites dans notre paracha étaient dites sur le mont Sinaï. C'est vrai que les autres aussi, ils ont été sur le mont Sinaï. Pourquoi la Torah, elle indique ici que c'était dit dans le mont Sinaï? Il y a des différentes explications, mais en tout cas, c'est le nom de la paracha, Behar, sur le mont Sinaï. Le nom de la paracha, la deuxième paracha que l'on lit, ça va être Bechukotai. Bechukotai, ça veut dire les lois, mais en plus en détail, c'est quelque chose qui est gravé. Alors, on voit un petit peu de différence entre une montagne et ce qui est gravé. Ce qui est gravé, c'est plutôt une opposition à la montagne. La montagne, c'est quelque chose qui flotte, qui sort, et l'idée de être gravé, c'est plutôt quelque chose qui est gravé, qui donne la chose lui-même. Et là aussi, on trouve cette notion d'harmonie. Et là aussi, dans cette notion même, ça se développe de différentes manières, que la Torah, elle doit avoir, la base de la Torah, c'est les deux notions. D'une part, être montagneux, au niveau, ça veut dire montagne, c'est quelque chose qui monte, ça monte un petit peu l'idée d'être sûr de soi, de se développer, d'aller plus loin. On peut assimiler ça avec l'orgueil, quelqu'un qui est comme une montagne. D'une autre part, il faut, la notion de gravure, c'est quelque chose au contraire qui est gravé en moi. Quelque chose qui est gravé, c'est au contraire, ça on sort, quand je grave sur la pierre, dans la pierre, alors j'enlève une partie de la pierre. Donc, c'est deux mouvements qui sont opposés. Parce que aussi, dans la Torah, dans l'esprit de la Torah, il faut avoir les deux notions. D'une part, on nous demande de s'effacer. Alors, le mot effacer, ça fait peur, mais ça veut dire avoir cette retenue, savoir donner la place aux autres, si on peut dire comme ça, savoir connaître sa place, savoir se limiter, savoir ne pas être partout, savoir connaître sa place, savoir être humble. Mais d'une autre part, L'idée de la montagne, c'est un autre mouvement. Ça veut dire savoir se développer, savoir dire, savoir avancer, savoir se considérer. Et ces deux notions qui ne vont pas ensemble apparemment, mais selon ce qu'on vient de voir, encore une fois, d'une façon très, très faible, parce que c'est un sujet qui se développe, les deux choses doivent être ensemble. C'est comme on a dit tout à l'heure, si je veux dire à un enfant « tu es nul », je le détruis. Et si je donne la possibilité à un enfant, je lui donne la possibilité de tout faire, de se sentir qu'il est le centre du monde, alors parfois aussi ça peut être une destruction. Il faut avoir les deux en même temps. D'une part, développer, savoir l'importance de chacun, il est très important, sur lui pose le monde quelque part, mais d'une autre part, être humble. Comment on le fait? C'est compliqué, c'est vrai, mais ça, c'est la Torah qui donne cette notion. Le développement et la retenue, pas l'orgueil, mais un autre mot qu'il faut dire, l'estime de soi, et en même temps, l'annulation, c'est deux mouvements qui créent, qui est très important, en tout cas, pour notre cohabitation. Alors ça, c'est quelques mots, juste quelques mots pour cette période qu'on est à la veille des dons de la Torah, qu'on puisse arriver à se comporter, en tout cas, un petit peu dans cette notion, avancer et reculer, ça veut dire avoir ce mouvement, et c'est sur ça que le monde peut cohabiter, avec ces mouvements, pas avec un mouvement, mais avec ces mouvements, que Dieu nous aide à réussir à trouver la paix dans le monde, enfin, et que ça c'est la vision messianique, comme qu'à ce moment-là, même les opposants, ils vont pouvoir vivre ensemble, mais maintenant, il faut que chacun fasse un effort, donne ce qui lui concerne. Merci beaucoup. Et à la semaine prochaine.
Fêtes et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.